As far back as 1899, it had already been.
Les repas en France. La table reste une des préoccupations essentielles des Français. Malgré le rythme effréné de la vie moderne, le Français tient encore beaucoup à l'organisation presque rituelle de ses repas. Offrir un bon repas, préparer un bon repas, reste encore de nos jours une des préoccupations de la femme française. Quel repas et à quel moment ? Une journée n'est pas complète sans les trois repas dits principaux, à savoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On prend le petit déjeuner vers 7h du matin environ. Il est généralement constitué de café, café au lait, chocolat ou thé, accompagné de tartines beurrées ou de confitures. Le petit déjeuner de luxe comporte aussi des croissants, qui sont des sortes de brioches en forme de croissant de lune. Cependant, de plus en plus, le petit déjeuner s'étoffe, et cela à l'imitation de nos voisins anglais et allemands. De plus en plus, on prend aussi du jus de fruits, des œufs, des laitages, voire de la charcuterie. À cela s'ajoute aussi la vogue de la diététique qui, en France, recommande de prendre des petits déjeuners sains, copieux et complets, riches en vitamines et en protéines. Il arrive que vers 9-10 heures, on prenne ce que l'on appelle un casse-croûte. Ce genre de repas rapide qui consiste essentiellement en pain et fromage ou pain et charcuterie est surtout pris par les écoliers ou par ceux qui font des travaux pénibles, des travaux qui demandent de la force physique, les ouvriers, les paysans. Le déjeuner se prend suivant les horaires de travail à 12 ou 13 heures. C'est traditionnellement le repas le plus important, c'est-à-dire celui qui se prend en famille et comporte 3 ou 4 plats, mais comporte de toute manière une entrée, un plat que l'on appelle le plat de résistance, et qui consiste en une viande et garniture, à savoir des pâtes, ou bien des légumes verts, ou bien les traditionnelles frites qui accompagnent le steak français, puis une salade verte, des fromages et un dessert. Pourtant, parce que l'on travaille de plus en plus souvent loin de chez soi, parce que l'on fait de plus en plus ce que l'on appelle la journée continue, c'est-à-dire une journée qui débute tôt le matin et qui, pour se terminer tôt l'après-midi, ne comporte qu'une légère interruption d'une heure. On ne peut guère prendre un repas très long. Le déjeuner tend donc à perdre de son importance. Ainsi, l'écolier, l'ouvrier, mange à la cantine de l'école ou de l'usine. Autrefois, l'écolier mangeait dans ce que l'on appelait le réfectoire, qui était une sorte de cantine, terme peu usité de nos jours et qui reste attaché aux écoles de type religieux. Les employés de bureau, eux, déjeunent dans une sorte de cantine self-service qui ressemble à une cafétéria et se trouve sur les lieux du travail. Quand il n'y en a pas, ou pour sortir du lieu de travail à Paris, dans les grandes villes, on va déjeuner dans un café. Il y a de nombreux cafés installés ainsi à proximité des administrations, des bureaux, des grands magasins, des banques, et qui proposent désormais des repas chauds. Repas rapide, on mange ce que l'on appelle le plat du jour, qui est proposé par la maison, que l'on agrémente quelquefois d'une salade, quelquefois aussi d'un dessert. Le plus souvent donc, on mange à la carte, ce qui permet un déjeuner beaucoup plus rapide que de prendre tout un menu. Parfois, quand on mange très vite et qu'on a guère le temps de prendre autre chose qu'un simple plat, ou voire même un sandwich simplement, On va dans ce qui est maintenant relativement courant en France et qui vient d'Amérique, et que l'on appelle des fast-foods. Sorte de libre-service rapide, où l'on mange sur le bout du doigt. Vers 16h-17h, l'écolier prend souvent un goûter, qui consiste en pain et chocolat, fruits, sucreries. C'est aussi l'heure pour les adultes où l'on prend le thé. Thé qui est toujours accompagné de petits fours et de toasts. Là aussi, à l'imitation de nos voisins anglais, ce sont donc des tartines de pain grillé que l'on accompagne généralement de confiture. Mais le thé n'est possible que lorsqu'on ne travaille pas. Il peut donc se prendre entre amis, généralement entre femmes, souvent le samedi. Le reste de la semaine, la femme travaillant, elle n'a guère le loisir de se consacrer à ce rituel britannique. Seules quelques femmes de la classe sociale élevée le pratiquent encore. Enfin, vers 19-20h, on prend le dîner. Beaucoup plus léger que le déjeuner, normalement, en fait, le dîner est en train de prendre l'importance que le déjeuner a perdue. Puisqu'on ne peut plus se réunir à midi, c'est le soir que tout le monde se retrouve autour de la table. C'est le lieu, l'instant des échanges entre les divers membres de la famille, voire avec les amis. Et de plus en plus, on invite le soir. Un dîner comporte généralement un potage ou une soupe, une entrée constituée d'œufs, poissons, charcuterie, ou bien une viande si l'on a invité quelques amis ou des connaissances, un légume vert ou une salade verte, un fromage et un dessert. Jadis, il existait un quatrième repas qui se prenait tard dans la nuit, vers 23h à peu près, et qui était appelé le souper. Ce repas n'existe plus que pour le réveillon de Noël. D'où l'appellation de souper que l'on retrouve encore dans certaines régions pour désigner le dîner. À côté de ce rituel quotidien, il y a aussi tout un art de la gastronomie qui se révèle dans les grands repas, c'est-à-dire les repas de fête, les repas de mariage. La tradition culinaire française remonte à la Renaissance. Au XIXe siècle, Brillat Savarin lui consacre un traité qui a pour titre La physiologie du goût, et depuis, la gastronomie française est considérée comme une science ou un art, ce qui lui a donné des noms de renommée mondiale, comme actuellement celui de Raymond Oliver. Où fait-on ces repas de fête, ces repas de mariage, ces repas de famille? Il arrive qu'on les fasse au restaurant, un samedi ou un dimanche, pour le déjeuner, essentiellement quand il s'agit de fêtes familiales, ou bien le soir, en semaine, pendant le week-end, pour une réunion un petit peu plus improvisée et plus restreinte avec des amis, pour fêter un anniversaire par exemple. Fêter une fête, un souvenir. Quelquefois, ce repas est fait à la maison. Et pour éviter à la maîtresse de maison trop de travail, on en confie la préparation à ce que l'on appelle un traiteur. Un traiteur, c'est un pâtissier ou un charcutier, les deux quelquefois, qui propose un échantillon varié de plats cuisinés. Un petit peu ce que l'on trouve ici dans les culinarias, à la différence que vous pouvez commander tout un repas, du début jusqu'à la fin, à un traiteur pour un jour particulier. Dans ces repas dits gastronomiques, il faut en fait bien distinguer deux types de repas. Le repas de type familial et la réunion entre amis. Le repas de type familial, c'est celui que l'on prend pour les grands événements, comme les mariages, les baptêmes, la fête religieuse, ou aussi le réveillon. Quoique le réveillon se fasse de plus en plus souvent à la maison. Le repas de type familial se fait donc à la maison le dimanche ou de plus en plus souvent au restaurant. C'est lui qui nous offre l'image du grand repas type. Il comporte souvent un nombre incroyable de plats et commencé à 12 heures, il se termine souvent à 16 ou 17 heures. L'ordonnance traditionnelle des plats est la suivante. On commence par des hors-d'œuvre variés qui peuvent consister en des crudités, de la charcuterie. Puis on prend une entrée, généralement une entrée de poisson ou de crustacé. On prend ensuite une viande rôtie ou une viande en sauce qui sont garnies. Ce peut être aussi un gibier ou une volaille, quelquefois les deux. Une salade verte, puis vient le traditionnel plateau de fromage, et enfin le dessert qui consiste en gâteau ou bien glace, ou bien entremets, laitage. Mais on termine toujours ce grand repas par des fruits, puis le café, et ensuite le champagne et les liqueurs. Le repas entre amis est souvent pris au restaurant. Et il est en règle générale beaucoup moins imposant que le repas de type familial. Ce genre de repas comprend une entrée, un plat principal et un fromage ou un dessert. Rarement les deux. Très souvent, ce que l'on veut apprécier, c'est une cuisine plus raffinée, beaucoup moins traditionnelle. Alors on va au restaurant parce qu'il est connu pour telle ou telle spécialité du chef. Disons qu'on va au restaurant pour sortir de l'ordinaire. C'est pourquoi aussi, très souvent, on choisit le restaurant qui propose de la cuisine étrangère. Ou bien des spécialités originales et raffinées, comme les huîtres au champagne, le foie gras au raisin. Tous les plats de viande et de poisson accompagnés de sauces raffinées, de fruits. Néanmoins, vous avez pu le constater, le point commun de ces deux types de réunions, de ces deux types de repas, reste le vin et le fromage. Car autant pour un repas ordinaire, le Français se contente d'eau, autant cela lui paraîtrait un crime que de faire un repas sans fromage et de faire un grand repas sans veiller à l'ordonnance très précise des vins. Les fromages et les vins. Bria Savarin disait déjà « Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil. » C'est important. C'est important parce que la France possède une variété incroyable de fromages. Plus de 100 espèces et 350 sortes différentes. Certains, d'ailleurs, comme le Roquefort ou le Camembert, ont atteint une renommée mondiale. On distingue plusieurs types de fromages. Les fromages frais, qui sont généralement des fromages blancs, du type Tvaroc en URSS. Puis, des fromages fondus, fromages à pâte pressée, comme le Gruyère. Et les fromages affinés, comme le Camembert, comme le Roquefort. Pour lequel on laisse se développer des moisissures. À cette variété, il faut encore ajouter les différences qui existent entre les fromages faits au lait de vache, faits au lait de chèvre, au lait de brebis, ou encore les fromages qui sont faits au lait cru ou au lait cuit. Autant donc de différences incroyables qui permettent à la maîtresse de maison française de présenter un plateau de fromage très varié. Mais Déguster un fromage ne se conçoit pas sans boire un vin. Il est en France un proverbe qui dit « Un repas sans vin est une journée sans soleil ». On pourrait aussi dire beaucoup des vins, qui sont en France tout un art, au point que chaque vin est presque en lui-même une œuvre d'art. Mais restons-en à quelques règles simples auxquelles tout Français s'en voudrait de déchoir. Il y a en France les cinq catégories suivantes. Le vin rouge sec, il est toujours sec. Le vin blanc sec, le vin blanc moelleux. Le vin rosé sec, il est toujours sec. Et le champagne. Et on ne les boit pas n'importe comment, ni avec n'importe quel plat. Ainsi, le vin rouge se sert chambré, c'est-à-dire à la température de la pièce. On doit le déboucher quelques heures avant le repas pour qu'il puisse prendre la température de la pièce. On le boit sur les viandes rouges ou blanches, sur le gibier et sur les fromages. Le vin blanc sec, lui, se sert frais, entre 5 et 10 degrés. On connaît surtout les vins d'Alsace. On les boit sur les poissons et les crustacés. Le vin blanc moelleux se sert frappé, autrement dit rafraîchi dans la glace. On le boit sur certains fromages, comme le roquefort, sur certaines viandes blanches, comme le veau, sur la volaille et sur certains poissons en sauce. Le vin rosé se sert frais, sur les hors-d'œuvre et sur certaines entrées. Le champagne, pour lequel les Français préfèrent le brut, le champagne se sert frappé sur les desserts. Parfois, pour éviter ce mélange de vin, et c'est aussi vrai de plus en plus souvent, le champagne accompagne maintenant tout le repas, du début jusqu'à la fin. On doit donc respecter une ordonnance très précise. Et par exemple, quand il y a plusieurs vins rouges au repas, on doit nécessairement aller du moins fort au plus fort. On ne doit jamais non plus mélanger vin et eau. L'eau se sert à part, dans un verre plus grand. Par ailleurs, le vin ne se boit jamais goulûment, mais se déguste à petites gorgées. Et on doit disposer sur la table un verre pour chaque type de vin. C'est donc à travers tous ces détails que se révèle le raffinement de la table française. Manger est devenu en France tout un art. Et c'est en tout cas un fait de civilisation qui n'est pas négligeable. Ainsi, Harpagon, dans l'Avare, a beau affirmer qu'il ne faut pas vivre pour manger, le Français considère que ce n'est pas vivre que de ne pas manger bien.